I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Non, on va passer à la partie création, puisque on va interviewer Ruby rapidement pour savoir un peu plus sur ton parcours et ta carrière et tes activités. C'est pas le moment de faire ta timide. juste avant, il y avait un dernier truc que je voulais vous montrer qui concerne la Fashion Week et qui me sert de transition parfaite. C'est le défilé de la Casa 93. On parlait justement de sourcer ces matières, de l'importance de faire attention à d'où elles viennent, comment elles sont produites. Il y a une école qui fait ça très bien, c'est Casa 93, que t'as suivi d'ailleurs, Ruby. Est-ce que tu veux bien nous présenter l'école rapidement?
Mais grave, la Casa 93, c'est une école de mode engagée qui a commencé donc dans les favelas de Rio. Et du coup, en étant franco-brésilienne, je connaissais la marque parce que j'allais au Brésil voir mes grands-parents. Et donc, enfin la marque là, qui est un peu une marque aussi parfois, hein. Il y a un peu ce côté marque d'ailleurs, mais qui est une école. Et du coup, moi j'habitais à Londres et quand ils sont arrivés à Paris, bah, j'ai utilisé ça comme opportunité pour me ramener un peu à Paris, puis re-être un peu autour de ma famille. Et j'ai fait la première promo de la Casa dans le 93. Et en fait, la Casa, du coup, se veut école de mode engagée et gratuite, ce qui est super pour une industrie de la mode qui est si élitiste. Tu vois, t'es obligé d'aller dans les écoles à 10 000 boules et tout. Et là, ce qui est cool, c'est que du coup, enfin, l'école est gratuite. T'apprends à faire de l'upcycling. Ils te forment vraiment à une slow fashion, du coup, une mode beaucoup plus lente et consciente. Et dans la classe, t'as 50-50. Donc, c'est pas que des gens défavorisés, c'est pas que des bourges. C'est vraiment un mix, quoi. Ouais. Et je trouve ça bien, tu vois. C'est pas genre. Enfin, je trouve ça chouette de pouvoir cohabiter, enfin, tu vois, dans ces classes. Et en plus, la collection, elle se fait en collectif. Et ce qui, je trouve, est d'autant plus important parce que dans la vie de tous les jours, après, t'es jamais. Enfin, c'est rare de travailler vraiment solo. En vrai, on est tout le temps, on a besoin des autres, tu vois. Donc, cette année, elle t'aide aussi à apprendre à vivre avec ton ego et ceux des autres. Et ouais, c'est une école que j'adore.
D'accord.
Beaucoup. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle école qui est ouverte là, à Toulouse. Donc, ouais.
Ok. Du coup, toi, t'as fait cette école-là. Avant, est-ce que tu voulais déjà travailler dans la mode? C'est quoi ton parcours un peu? Comment est-ce que tu t'es retrouvée créatrice de mode?
Attends, c'est marrant, avant que les gens le disent, tu te rends pas compte que t'es genre créatrice de mode. Donc, genre, ah ouais, c'est ça en fait. j'ai toujours eu une sensibilité genre aux belles choses, tu vois, que ça soit les gens, les énergies, les vêtements, l'architecture, enfin ce qui se passe visuellement, je travaille vachement, j'ai même une mémoire visuelle, je suis très sensible à l'image et du coup petite en fait ce qui s'est passé
mais là c'est toi du coup.
Oh là là. C'est horrible hein, ça. En fait d'ailleurs je voulais dire respect aux mannequins en vrai parce que marcher c'est un vrai taf. Je savais pas que marcher pouvait être un métier mais en fait c'en est un de ouf et ouais savoir bien marcher
surtout
c'est
là, y a
surtout sur ouais des petites figurines de building enfin franchement c'était pas facile.
OK bah petit point en contact du coup donc toi t'as fait cette école là il y a plus de 5 ans?
Il y a 5 ans. Il y a 4 ans je crois
4
maintenant.
Ah, okay.
J'avais 20 ans, j'en ai 25 en novembre, ouais ça fait 5 ans. Ouais.
OK.
Je crois 21.
Et du coup tu parlais de la collection qui se fait en collectif, donc c'est la collection de fin d'année.
Exact.
Où tout le monde montre ce qu'il sait faire et tout. Et là, 5 ans plus tard, t'es retournée, mais cette fois à côté mannequin, pour présenter la collection de la nouvelle promo, quoi, de la promo actuelle.
Ouais. Okay. T'es hyper honorée. Même si je trouvais que c'était. J'ai pas du tout bien marché. Enfin, c'était. Bref.
Bah, c'est compliqué, quoi.
C'est compliqué.
Et en plus, oui, tu parles des figurines par terre, donc il y avait plein de figurines
en
polystyrène au sol.
En fait, ils ont refait tout un monde et tu devais marcher dessus, mais genre sans trop l'écraser. Puis moi, je venais de recevoir mes New Rock qui pèsent juste genre 5 kilos par pied. Donc c'est un full workout de marcher avec. Donc non, ouais, c'est un vrai métier.
T'avais des courbatures le lendemain?
Non, ça va.
Okay.
Je fais du sport en vrai.
Bah,
donc,
tu peux le refaire alors.
Ouais, je vais le refaire, ouais. Tous les jours.
Ok. Et du coup, on parlait de ta créativité. Du coup, t'as toujours une sensibilité visuelle, mais pas que.
Ouais.
Et t'as voulu te lancer dans la mode.
En fait, je vais t'expliquer le sujet, du coup, enfin, toute l'histoire. En gros, donc, j'ai toujours aimé la fringue. Ma mère, beaucoup. Enfin, c'est ma mère qui m'a vachement inculqué tout ça. Et qui, elle, n'est pas du tout dans la mode, d'ailleurs. Elle est dans l'événementiel.
Et donc ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai déménagé à Londres quand j'avais 14 ans avec mes parents parce qu'ils ouvraient un business là-bas. Et on n'avait plus d'argent avec ma... Enfin, on n'avait pas d'argent, mes parents, ils ont arrêté à un moment de nous donner de l'argent très tôt, d'ailleurs, vers 15 ans. Enfin, déjà, on avait la chance d'avoir un peu d'argent de poche, mais genre, juste, ils nous ont dit à un moment, bon, là, vous faites un peu vos trucs, en vrai, vous n'avez pas besoin d'argent. Si vous voulez plus d'argent qu'on vous donne de poche, bah, faut le faire. Donc, on a commencé à vendre les fringues qu'on ne mettait pas, et en fait, on vendait sur Depop, qui est genre l'équivalent de Vinted à Londres. À l'époque, c'était vraiment cool, Depop. Aujourd'hui, c'est un peu très cher, et genre, t'as que des pièces où... Enfin, je trouve ça un peu cher et plus que c'était. Mais bref, du coup, on était sur Depop, on a commencé à vendre nos vêtements là-dessus. Et les fringues qui se vendaient pas, on les upcyclait et moi, je les retravaillais. Et en fait, au fil du temps, les gens, ils achetaient plus les fringues upcyclées que les fringues qu'on vendait, genre de seconde main. On en a fait presque un petit shop, ça s'appelait Ruby and Yasmin's Closet. Donc, on parlait de jumeaux tout à l'heure, moi, c'est avec ma sœur jumelle que j'ai commencé à faire ce petit biz. Et en fait, à 15 ans, bah voilà, en fait, fil en aiguille, on a appris à faire un site, on a appris à prendre des pics, à faire tout le petit marketing autour, enfin, tu vois, à ta sauce. Et en fait, c'est devenu Rusmin après, qui est aujourd'hui ma marque de vêtements upcyclés. Et aussi à Londres, il y a un truc, c'est que nous, on était dans une école anglaise. Et à Londres, tu peux choisir, enfin, aujourd'hui, d'ailleurs, tu peux faire ça au lycée, tu choisis un peu plus tes matières. Mais on avait choisi, à 15 ans, tu pouvais choisir tes matières pour le bac. Et moi, j'ai choisi art, textile et business. Et enfin, dans ma tête, c'était, tu vois, c'était clair, quoi. À 15 ans, je savais que, mais c'était l'équivalent de genre d'un bac pro, je pense. À Paris, mais un bac pro, ça aurait été mal vu. Et alors que là-bas, c'était trop encouragé. Tu vois, si tu savais ce que tu voulais faire à 15 ans, bah, trop bien. Qu'on commence à t'émanciper dès que tu peux, tu vois. Et donc ça m'a grave fait du bien. Et en fait, du coup, après, j'ai fait une année. Donc, j'ai appris à coudre à 15 ans à l'école. Et après, j'ai passé mon bac à Londres, donc de art, textile et business. Et après, j'ai fait une année de marketing de mode. Et après, j'ai bougé à la Casa à Paris. Et après, je suis allée à l'IFM pour 6 mois d'entrepreneur. Et après, je me suis lancée.
Et c'est quoi la plus grande leçon que t'es retenue de la Casa?
Le côté collectif, parce que je pense que... Enfin, plusieurs choses. Il y en a un qui a été, je pense, la confiance en soi. Parce que je suis revenue de Londres et j'avais oublié mon... Enfin, en fait, déjà que j'ai appris à 3 ans... Enfin, dès que on m'a appris à parler, j'ai appris le portugais et le français en même temps. Et du coup, j'ai l'impression qu'on m'a appris à être dyslexique presque. Parce que genre, vraiment, j'arrivais en cours et je parlais portugais à la prof comme si genre, la poteau était brésilienne, alors que pas du tout. Et en fait, du coup, à Londres, ça a rajouté une couche et mon cerveau, il a pas compris. Donc en fait, ça m'a fait du bien à la Casa parce qu'il nous a un exercice où toutes les matinées et toutes les après-midi, on devait se présenter à un intervenant. Et c'est en vrai le truc le plus flippant j'avais jamais fait autant de... Enfin, me présenter à l'oral comme ça, constamment, c'était hyper flippant. Et puis, il faut le faire tout le temps, même en gueule de bois, ou enfin, t'es gay ou pas, t'en fous. Enfin, tu peux être là, il faut assurer. Et puis, surtout que la personne d'en face de toi, elle peut potentiellement t'embaucher plus tard. Enfin, donc, il faut que tu te donnes. Et ça m'avait grave aidé à reprendre confiance en moi, parce qu'à la fin d'une année à te présenter, bah, à force, en fait, tu commences à prendre tes aises. Ouais, tu maîtrises un peu la situation. Et voilà, donc, je pense que la confiance en soi... Ils m'ont vachement aidé à prendre confiance en moi. Ils m'ont aidé évidemment à avoir une vision de l'upcycling qui est quelque chose de vraiment commercialisable, ou du moins de palpable. Tu vois, pour moi, c'était juste un truc d'artiste un peu marrant.
Est-ce que tu peux définir l'upcycling ou le surcyclage?
Le surcyclage, en vrai, parce qu'il y a des gens qui s'énervent parce qu'on parle anglais. Et genre, non, upcycling, c'est surcyclage. Bref, le surcyclage, en gros, c'est... La définition, c'est du recyclage à... c'est censé être genre du recyclage, mais à utilité supérieure. C'est pour ça que ça s'appelle surcyclage. Mais l'upcycling, pour moi, c'est déconstruire... en tout cas, dans le vêtement, c'est déconstruire un vêtement, déconstruire une matière, un tissu, pour en faire un autre et lui donner une nouvelle vie, quoi. Et ça existe dans le mobilier. Et en fait, en vérité, c'est pas un truc révolutionnaire. Hein. Ça se fait depuis la guerre. Enfin, ça s'est fait dans des moments de besoin, enfin tu vois, à un moment quand t'as ça et que tu veux avoir autre chose et que t'as pas les moyens de faire autrement, tu t'apprends. Donc voilà ce que c'est l'upcycling. Et bref, ouais, du coup la Casa m'a appris à l'upcycling, m'a appris la confiance et le fait de travailler avec d'autres personnes, quoi, avec d'autres jeunes, défendre ton idée, savoir écouter l'autre. Pas évident pour quelqu'un qui, tu vois, sait ce qu'elle veut et en mode genre, moi je veux que ça soit ça et comme ça, il faut être en genre, non Ruby, t'es pas solo. Donc voilà, quoi, je pense que ça m'a appris tout ça.
Et du coup, tu fais plus cette marque-là avec ta sœur aujourd'hui. Tu es toute seule à la tête de cette marque. Et du coup, comment tu te fournis tes matières vu que tout est upcyclé?
Ouais. Bah alors déjà, je suis pas toute seule parce que je trouve ça important quand même de mettre la lumière sur les gens qui m'aident parce que on fait pas grand-chose tout seul. Enfin, on fait, mais on va pas très loin, je trouve. Et j'ai Lorraine qui est la couturière de Yusmin. Et en fait, on a après des stagiaires et moi, je couds aussi, mais de moins en moins parce qu'en réalité, je suis souvent en train de faire soit des rendez-vous parce que je suis aussi créatrice de contenu. Et en fait, l'influence, c'est un vrai levier de fond pour les marques. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je me disais, je trouve ça ouf et je me dis, ça doit être hyper dur d'avoir une marque sans avoir genre soit un investisseur, soit des sponsors constamment, en fait. Parce qu'en réalité, avoir une marque, ça coûte une blinde, surtout quand tu veux faire les choses un peu bien, payer les gens bien.
T'avances les frais de chaque collection, en fait.
Non, nous, on est en préco, mais enfin, plus ou moins. En fait, maintenant, plus on fait... Parce que nous aussi, on fait à la précommande et on fait que avec du dead stock, donc des fins de rouleau. Mais maintenant que je commence à comprendre un peu le... tu sais, tu commences à saisir ce que les gens... Qu'est-ce qui va plaire aux gens, à quelle quantité, t'essaies de... Donc on essaie de prendre un peu de l'avance, mais c'est vrai qu'on avance plus ou moins les frais. Ça dépend de la pièce et à quel point on pense qu'elle va marcher en vrai. Mais on est en préco, en tout cas.
Mais qui dit fin de rouleau dit forcément que c'est en édition limitée chaque pièce.
Ah ouais, mais du coup, tu dois prendre tout le temps, t'anticipes en fait. T'anticipes tout le temps la nouvelle la pièce. Mais d'ailleurs, nous, on s'est tâté à faire juste un truc où en fait, on se base sur des rouleaux. Et puis, d'ailleurs, dans l'upcycling aussi, c'est ça. C'est que finalement, tu peux pas vraiment avoir une direction artistique si... spécifique définie, que ça parce que tu te bases sur ce qui reste, tu vois, par définition. Donc ça sert à rien d'être hyper picky et tout, et donc tu t'adaptes. Pourquoi je disais ça?
Je te disais qui dit fin de rouleau dit édition hyper limitée.
Du coup, on fait des trucs hyper limités. Ouais, genre on dépasse jamais, je pense, les 60 pièces sur un tissu, quoi.
Ok.
Ouais.
Et tout à l'heure, on parlait un peu de polyester. C'est quoi tes matières de prédilection? Est-ce que...
Bah nous, du coup, on n'a pas l'avantage d'être aussi piqué là-dessus. On prend ce qu'il y a et on prend ce qu'on a l'impression parce que... Bon, après, on prend pas du polyester forcément parce que... En fait, moi, je prends ce que je trouve beau et qualitatif. Et parfois, le polyester, c'est rare que ça soit qualitatif. Tu vois, mais t'as des matières synthétiques qui sont quali. Hein.
Qui sont quali, ouais.
Et voilà, quoi. Et parce qu'en fait, aussi, je m'adresse à des jeunes et je sais aussi que, du coup, moi, il y a 3 ans, j'avais pas les moyens de me payer même les pantalons que je vends aujourd'hui. Donc, tu vois, genre, je peux pas... Ou les robes et tout, là. Tu vois, là, moi, je suis tombée amoureuse d'un tissu récemment, mais parce que c'est une fin de rouleau d'une maison de luxe, mais il coûte 16 balles le mètre. Donc, quand t'as rien que le tissu qui coûte 16 balles le mètre... Enfin, après, je te laisse... faire les comptes sur tout le reste, rajoute les taxes et tout le bordel, enfin bref. Donc ça va très vite et donc on essaie de jauger et en même temps tu veux pas te limiter sur la qualité du tissu parce que bah, ça sert à rien de faire d'un produit s'il est pas chamé, donc c'est un peu des compromis et savoir ce qui est important pour toi, quoi.
D'accord.
Du coup t'as commencé par ta marque et après t'as développé l'influence.
Ouais. Ouais. Et en fait, j'ai commencé par ma marque. Et donc, à côté de ma marque, en fait, à la base des bases, Rusmin, on appelait ça une marque média parce qu'en fait, on voulait parler plus qu'à travers le vêtement et faire des vidéos sur YouTube. La première vidéo que j'ai sur YouTube, c'est j'explique la fast fashion. Okay. Et donc, voilà, on voulait un peu avoir ce levier où on parle aussi face cam aux gens de notre vision de la mode et comment encourager. Enfin, tu vois, je fais plein de tutos aussi à côté. Et en fait, c'est pendant le confinement, notamment, que ça a boomé pour moi. Et en 2 mois, j'ai eu 30 000 followers de plus. J'étais déjà à 20 000, mais là, ou à 15 000, je sais plus, mais en 3 mois, là, ça a déclenché un truc. Et en fait, juste parce que, donc j'étais en consulting, je faisais du consulting pour les marques, alors que j'ai très peu d'études, mais vu que j'ai fait les choses toute seule, finalement, les gens, ils voient le résultat, ils sont en mode genre, ok, fais-moi pareil. Et en fait, du coup, j'ai commencé à amasser les clients. Et en fait, au confinement, j'en ai perdu 2 sur 3. Et j'avais vachement plus de temps pour faire des tutos. Et donc, j'en ai fait à masse. Et c'est là où j'ai pris 30 000 followers. Mais comme quoi, c'est important parfois de se focus sur toi. Parce que finalement, on a à gagner. Enfin, là, c'est une belle preuve, mais ça se trouve, ça marche pas parfois. Mais là, du coup, le fait que je me suis concentrée plus sur moi et mes projets, bah, finalement, aujourd'hui, je peux vivre de ça. Et c'est cool, mais je garde quand même un client de consulting parce que pour moi, c'est hyper important d'avoir une entrée d'argent qui ne dépend pas de moi, parce que ça me stresserait trop sinon. Mais oui, c'est vrai que donc, l'influence est arrivée après Rusmin est presque un peu... Les deux se nourrissent finalement, je pense. Mmh. Tu vois, je pense que les marques, elles viennent vers moi aussi parce que j'ai ma marque et moi, je peux avoir ma marque parce qu'il y a les marques qui mettent de l'oseille, quoi.
Et justement, aujourd'hui, ça représente quoi en termes d'activité? Est-ce que c'est 50-50 l'influence Rusmin ou...
Bah, ça dépend des mois, mais genre, le mois dernier, justement, j'étais hyper fière parce que pour la première fois, je pense, Rusmin a fait plus d'argent que l'influence et j'étais trop contente. Parce que déjà, Rusmin, ça a 2 ans et demi, donc c'est pas forcément quelque chose qui est hyper rentable. Au début, ça fait que. On peut déjà s'estimer hyper heureux si ça fait que déjà recouvrir les frais, tu vois, et les gens que je paye.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Et donc, ouais, le mois dernier, là, je me suis rendu compte que Rusmin avait fait plus d'argent que l'influence et j'étais trop contente parce que c'est quand même un peu le goal d'avoir moins l'impression de devoir faire des sponsorings et de gagner plus dans la marque, tu vois. Mais sans non plus, enfin, moi, je suis hyper contre ce truc très fashion week, d'ailleurs, tu vois, de genre crever pour la mode, on va mourir pour la mode, on se fatigue pour la mode, on dort pas pour la mode. Moi, j'en ai rien à foutre. Genre, j'ai jamais, pour moi, enfin, je veux jamais mettre mes couturières en PLS pour une fringue, tu vois. Donc ce sponsoring, il permet aussi de dire, OK, c'est cool, on a un petit coussin, les gars, on peut prendre notre temps.
Et dans quelle mesure t'as l'impression que ta marque dépend de ton image? Dans quelle mesure est-ce que t'as l'impression que c'est parce que aussi tu te mets en avant 100%. Que les gens...
100%. Un peu, ouais. Bah ouais, je sais parce que je sais que derrière je leur parle aux gens, tu vois, que je leur explique comment c'est fait, ils mettent un visage derrière, donc c'est ça aussi le stress. Parce que moi je suis hyper, hyper maladroite, enfin genre à tout moment je me fais cancel. Non, j'ai...
Non, pas ce soir en live, s'il te plaît.
On te
non, mais je fais pas cancel, mais genre, je suis vraiment humaine, tu vois. Et en fait, ça, c'est marrant aussi parce que les gens, ils sont hyper en mode genre, ouais, on aime plus l'influenceuse, genre, elle est plus elle-même. Mais en même temps, les gens sont grave derrière ton dos, tu vois, et ils t'attendent au tournant. Et en fait, ça m'étonne pas que les filles, elles soient plus naturelles. Elles ont pas le choix, en fait, elles se sentent observées. Mais non, mais moi, je suis trop. J'aurais trop la flemme de pas être moi-même et finalement c'est quand même beaucoup plus simple d'être soi-même quand même.
Et puis finalement être aussi franche, honnête, entière, est-ce que ça te permet aussi de montrer que t'apprends, que tu fais parfois
ouais.
des erreurs et
ah,
tout
y a
et...
des fois, mais en fait ouais. ce qui est charmé c'est que nous on a les meilleurs clients du monde. Il y a eu des fois où genre on a oversell, genre on a vendu plus qu'on avait, parce que vu qu'on est en limité, ça demande une logistique derrière d'être hyper à fond, surtout sur les tailles, tu vois. Genre moi je me retrouve les jours des drops à toujours décaler les tailles, à dire ok, bon en fait là on essaie de faire du XS au XL, tu vois, et ça en fait en gros ça veut dire que c'est du 34 au 44, ce qui est pas énorme non plus, mais on fait au max. Et du coup moi je suis tout le temps en train de, tu vois, genre jauger et tout machin. Et pourquoi je disais ça?
Je te disais.
Les meilleurs clients du monde.
Ouais, oui, j'ai les meilleurs clients du monde parce que tu vois, donc, pardon, on a vendu un moment plus qu'on avait. Donc, je sais pas, à 4 clientes, mais on leur envoie un message en leur disant putain, on a plus cette jupe, on a plus ce tissu, on peut plus faire cette jupe. Est-ce que vous êtes chaud? Donc, soit on vous rembourse, évidemment, ou est-ce que vous êtes chaud d'attendre le prochain drop et voir s'il y a une jupe, enfin, tu vois, s'il y a un truc qui peut remplacer. Ils sont en mode genre, ok, on attend un mois et demi s'il faut et tout. Enfin, les gens sont adorables.
C'est un mois et demi, du coup, le délai entre.
Nous, c'est toujours entre 10 jours et un mois, mais là, on savait pas du tout quand est-ce qu'on allait re-avoir, enfin genre franchement et les meufs elles, c'est des crèmes quoi, enfin
oui, parce que t'es vraiment transparente sur la production,
puis on parle, enfin tu vois, genre elles savent qu'elles ont affaire à un humain. Bon, parfois il y en a qui perdent des câbles, enfin qui pètent des câbles, genre il y en a eu je pense 2 fois où il y a des filles qui étaient en mode genre mais 2 fois sur 3 ans c'est rien, tu vois. Une meuf elle était en mode genre oui j'ai pas reçu, alors que vraiment il y a écrit sur la fiche produit, hein. Elle dit ouais j'ai pas reçu mon truc au bout de genre 3 jours, je veux me faire rembourser. Bah, j'étais en mode ok, bah tu sais quoi, fais-toi rembourser parce qu'en fait moi j'ai pas envie de me mettre la pression pour toi. T'as peut-être un comportement d'achat qui est du coup dans ce truc de fast fashion. Moi non, tu vois, et en fait c'est pas très grave si je te perds en tant que cliente parce que j'ai du coup ces sponsors là qui me permettent d'être un peu plus détendue, et surtout j'ai d'autres clients aussi qui comprennent ma démarche, tu vois. Ouais. Donc, enfin, pour moi, c'est
ça, quand hors de question. Quand la clientèle ne comprend pas,
c'est un truc de confiance, tu vois. Oui. Même moi, je fais beaucoup de click and collect. Les filles, genre, on se voit en vrai, quoi. Tu vois, je leur file la fin. Genre, on essaye aussi de faire moins de shipping et tout. Donc, voilà. Et nous, on s'engage aussi à réparer les trucs s'il y a besoin, même au bout d'un certain moment. Parce que pour moi, c'est important que les gens, ils portent les vêtements. Enfin. Mm. Ça n'a rien d'avoir un truc qui te chill. Et puis même, on a déjà remboursé il y a une fille qui voulait retoucher un truc. On s'est engagé à payer cette retouche. Parfois, je trouve que peut-être même on va un peu trop loin. Et on faut aussi accepter qu'on n'est pas leur daronne. Et tu vois, genre...
trop gentil.
Mais non, mais c'est pas gentil. C'est aussi genre... c'est être en phase avec moi-même, tu vois.
Ouais.
Un maximum, j'essaye. Parce que c'est pas toujours facile. Et puis, il y a plein de sponsors que je fais où je suis pas en phase à 100% aussi, tu vois. Donc, c'est un peu trouver son équilibre dans ce monde de chacal.
Est-ce que t'as parfois l'impression qu'être influenceuse, ça nuit à ta crédibilité de créatrice nomade?
Probablement. Mais après, franchement, je dirais à des gens, si toi, t'avais l'opportunité d'être payé 1000 balles à dire salut, machin, enfin, franchement, tu le ferais. Et en fait, je pense que j'ose espérer que les gens... Après, je fais pas que des partenariats dégueulasses, voire j'en fais pas. Je fais des partenariats... Enfin, en fait, j'essaie toujours de tourner le truc, tu vois. Genre là, récemment, j'ai fait un truc hyper touchy, en vrai. J'ai fait un partenariat avec Martini sans alcool. Hyper touchy, aucun rapport avec moi. Je tisse pas tant que ça sur les réseaux. Enfin, je suis pas en mode genre, ouais. Et en fait, j'ai dit à Martini, moi, je suis chaud de vous promouvoir ce que vous voulez. Enfin, pas ce que vous voulez, mais genre, c'est un truc sans alcool. Si je peux intégrer l'upcycling dedans. Au final, j'ai sorti ma story aujourd'hui. Les gens ont beaucoup plus focus sur l'upcycling qu'il y avait avant. Donc moi, j'ai l'impression de faire mon dièse quand même, tu vois, et genre de sortir ce qu'il y a à sortir du sponsoring, quand même avoir le petit coussin pour mes autres projets perso. Et enfin, tu vois, genre, tout le monde s'entend, tu vois. Mais après, si les gens, ils veulent pas comprendre, c'est pas non plus trop mon problème, tu vois. Moi, j'ai ma réalité, je sais à quel point je suis bien dans mes baskets ou pas, tu vois.
Mm.
Après, j'ai jamais fait des trucs horribles. Il y a des limites. Et je pense que c'est important d'avoir des limites, tu vois. Parce que moi, je vois aussi des influenceuses qui se veulent très, genre, seconde main. Et qui font avec Amazon Fashion, tu vois, ça, c'est compliqué.
Et on peut parler un peu plus concrètement de ce que tu proposes actuellement en boutique, par exemple. Toi, t'es pas dans un truc de ce drop-là, le storytelling, c'est ci, c'est ça, mes inspirations,
mais
c'est ci, c'est
pas,
ça,
mec.
C'est pas ça la réalité.
J'ai pas le temps.
Ouais.
En fait, le truc, et ça aussi, c'est un vrai problème, c'est que par rapport à même l'inclusivité, tu vois, je pourrais avoir des... Enfin là, on va commencer à l'incorporer quand même, parce que je trouve que ça devient un problème, et moi, c'est un truc que je veux quand même montrer... qu'on fait des fringues à plus qu'une taille 36, tu vois. Parce qu'évidemment, si tu me montres que la fringue sur une taille 36, t'as plus de meufs qui achètent en taille 36, tu vois.
Mmh.
Donc, pour moi, c'est important que les gens, ils se sentent...
Représentés
de ouf. La représentation, pour moi, c'est hyper important. Mais en fait, le problème avec l'upcycling, encore une fois, c'est que vu qu'on fait des drops tous les mois, presque, pour pouvoir tenir le rythme, rien que genre... En fait... Tu sors un truc, quand il n'y a plus, donc tu refais le... En fait, tu te rends compte que si tu devais faire des shootings à chaque fois que je sors des trucs, je devrais financer des shootings à chaque fringue. Et qui dit financer des shootings, dit mettre la fringue plus chère, dit la rendre moins accessible, donc du rendre la mode éco-responsable moins accessible. Enfin, faut prendre tout en compte, tu vois. Et donc, en fait, c'était pas forcément... mais je pense que là, ce que je vais faire, c'est surtout, genre, je vais avoir des ambassadrices qui... Genre, j'ai une copine à moi qui veut bien que je lui envoie des fringues, et elle me fera des photos, et comme ça on verra que c'est fait sur... Enfin, tu vois, qu'on voit que Rusmine peut être portée sur différents corps. Et enfin, tu vois, essayer de marcher presque plus au troc et voir pour l'instant, parce que faire un shooting tous les mois, ça veut dire vraiment augmenter le budget, tu vois. Et donc d'un coup, tu passes à une robe qui devient hyper inaccessible, alors qu'à la base, toi, tu t'essayes quand même, tu vois.
Et là, par exemple... À l'écran, on peut voir le pantalon Adams.
Qui a 240 balles. Pour moi, c'était hyper dur pour moi de mettre ce prix-là.
Ouais.
Mais en même temps, il y a zip, poche. En fait, tu sais, tu penses à tout, je sais pas pour toi, mais genre, dès que tu vois un truc, tu dis, OK, on va parler zip, on va parler pince, on va parler poche, on va parler ça dure des heures. C'est vraiment le minimum.
Ouais. Et du coup, là, le tissu, tu l'as trouvé comment?
C'est ça, ce fameux tissu à 16 balles le mètre.
Ok.
C'est ce putain de tissu qui est charmé, qui est magnifique. Mais, et lui, c'est, je crois que c'est de la laine, il y a écrit. Ouais,
98% tu sais. Laine, 2% élastane, made in Italy.
Et ouais, il est magnifique, il provient d'un dead stock de maison de luxe.
Et ça, est-ce que c'est LVMH et Mona, là, Tu veux en parler ou...
Je ne te donnerai pas le nom du fournisseur.
Okay, d'accord.
Parce qu'en fait, genre, ça, tu sais qu'il y a des gens quand même qui m'envoient des messages, qui font « Ouais, j'adore, genre... » Parce qu'on est cool,
donne l'adresse, s'il te plaît.
T'as pas idée. Nos gens, ils nous envoient des pièces qu'on fait, ils nous disent « Ouais, vous voulez pas partager le patron ?»
Ça n'a aucun sens.
C'est un business,
genre,
donc...
Oui, genre, on veut bien être ça, sympa, mais tu vois, faut pas abuser, quoi. Et les fournisseurs, pour moi, genre, au début, je comprenais pas pourquoi c'était pas un truc qui se partageait. J'étais en mode « Mais trop bizarre, attends, je partage, s'il veut faire sa marque, c'est trop cool et tout. » Et en fait, déjà, bah, qui dit upcycling, du coup, dit limité. Donc après, ça se trouve, le mec qui va prendre un tissu, ouais, bah, toi, tu l'auras pas. Et en plus, bah, toi, tu taffes, tu fais tes recherches. Franchement, c'est horrible, mais en fait, il faut laisser un peu les gens faire leur chemin. Parce que... Mais surtout, là, le coup du patronage, j'étais vraiment bluffée. Ah, je me suis dit, le culot. Je me suis dit, vraiment,
ça s'est tenté.
Ouais, 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 voilà, vraiment.
Mais t'as mis beaucoup de temps à trouver tes fournisseurs.
Ouais, bah ouais.
C'était le plus dur.
C'est pas le plus dur, mais après, il y en a qui tombent, et puis tu t'arrêtes dessus, et puis c'est pas si dur que ça, en réalité. Et puis c'est pour ça aussi que je trouve que c'est pas nécessaire de le dire, parce qu'en vrai, tu tapes sourcing, fournisseur, fin de rouleau, tu trouves, hein. Donc c'est vraiment hyper feignant de demander, en vrai. C'est pour ça aussi que je dis ça, parce que finalement, c'est pas un truc de ouf.
Ouais.
Ok. Faut être un peu plus curieux, ouais.
Bah ouais, genre, j'ai la fucking journey, genre, enfin, franchement, je vais pas t'aider sur tout le long, tu vois. Mais je me suis tâtée à faire, genre, des vidéos, genre, même au début, j'étais en mode, ok, est-ce que je ferais pas une playlist, genre, comment créer sa marque? Mais là, je me détache de moi, et en fait, faut aussi que je puisse protéger, genre, mon biz, quoi, tu vois.
Dans tes activités, tu proposes aussi beaucoup d'ateliers encore aujourd'hui.
Ouais, ça, c'est hyper important, le côté éducatif, pour nous.
Et ça consiste en quoi? Tu proposes quoi, par exemple?
Bah, j'apprends aux gens à upcycler. Et en fait, à coudre, donc par la même occasion. Mais en fait, je parle d'upcycling parce que pour moi, c'est important d'inculquer aussi ce... t'apprends aux gens qu'avec deux t-shirts, tu peux faire un short. Tu vois, c'est pas juste on va coudre, c'est on va apprendre à avoir cet esprit genre de transformation et de savoir que, bah voilà... Comme je disais, quoi, avec d'autres t-shirts, tu peux faire un short. Avec une nappe de ta grand-mère, tu peux faire un sac. Enfin, tout est possible. Et du coup, de vraiment inculquer ce truc de transformation. Et pour moi, c'est important parce que c'est pas cher. C'est à 35 euros nos workshops. Et en 2h30, tu sors avec des skills, des compétences, pardon. Tu peux réutiliser après, tu vois. Et pour moi, il n'y a pas mieux qu'apprendre aux gens à faire soi-même. Il n'y a pas plus éco-responsable.
D'accord. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Tu leur apprends un savoir-faire qu'ils pourront toujours réemployer.
Ouais.
C'est mieux que leur donner l'adresse d'un fournisseur ou...
Oui, ou même de dire juste acheter, parce que moi... Parce que aussi, t'as ce truc un peu parfois où t'as l'impression qu'il y a un peu ce côté... les gens, ils achètent éco-responsables pour se rassurer ou tu vois, pour sentir mieux. Mais en fait, de pas acheter tout court, c'est beaucoup plus éco-responsable que ce que tu veux. Tu vois, les gens, enfin, tu sais, t'as plein de produits qui sortent en mode genre le déo éco-responsable, le machin éco-responsable. Genre, juste peut-être achète moins et ça ira.
Mais du coup, outre ce conseil achète moins et ça ira, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer sa marque ou au contraire qui veut apprendre à coudre, à part suivre un atelier
c'est que promouvoir son truc. Bon, on va commencer par la première question. Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui veut lancer sa marque? Et bah, je dirais de la commencer quand t'es jeune et que t'es un peu soutenu par tes parents déjà, ou t'es soutenu par tes parents, en vrai. Parce que si t'es pas tes parents, c'est quoi? Genre, je sais pas, enfin, l'influence, comme je disais, mais tu vois, c'est parce qu'en fait, c'est cher et tu vas te déchauffer très vite si t'as pas une autre source de revenus, quoi. Tu rigoles.
Non, il y avait un troll dans le chat, mais il a été banni.
Ah.
On a une équipe de modération géniale. Merci beaucoup, Isaac.
Mais ouais. Ouais, c'est vrai que ça doit pas être évident,
là. Non, mais là, ça se passe très bien, t'inquiète. Il y a quelqu'un d'autre qui disait, par exemple, Mathilde, très intéressant le témoignage de Ruby, j'aime beaucoup sa franchise. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, allez-y, dans le chat, on vous lit.
Pour conseil, je dirais d'avoir un petit... d'avoir un taf à côté, de commencer doucement, de pas avoir peur de... Enfin, tu vois, les gens, parfois, ils lâchent tout et commencent à faire leur truc en mode, genre, j'y crois à donf. Et c'est trop bien d'y croire, mais les choses, elles prennent du temps. Et je pense que c'est important de rester réaliste et d'avoir toujours un peu de garder un job à côté pour être sûr de... Bah, genre, de pas trop désister vite. Parce que si tu mets tout ton temps et ton argent sur un projet, bah, tu vas être un peu pris de court parce que les choses, elles prennent du temps, en réalité. Voilà.
Et un conseil pour quelqu'un qui voudrait justement réduire sa consommation de vêtements? Mais tu en as déjà donné plein, évidemment.
Non, je réfléchis. Bah, je pense que réduire sa consommation de vêtements, bah, ça aide déjà d'apprendre à coudre parce que du coup, avec ce que t'as, t'as moyen de refaire des nouvelles choses. T'as pas forcément envie d'acheter si tu sais faire. Tu peux grave changer de tendance avec une même pièce que t'avais l'année dernière. Donc apprendre à coudre, je pense que c'est chouette. Mais de réduire sa consommation de vêtements, c'est dur parce que moi, ma consommation de vêtements, elle a pas tant baissé que ça. Hein. En réalité...
Mais c'est cool de l'assumer.
Bah ouais, c'est la vérité. Et puis surtout que ce qui est hyper bizarre, c'est que tu deviens connu parce que tu parles de baisser ta consommation de fringues et en fait, on t'envoie des fringues parce que t'es connu. Mmh. Et t'es en mode... Et du coup, là, je deviens hyper sélective. Le pire, c'est que t'as des gens, ils t'envoient des surprises. Moi, je suis en mode des surprises, ça veut dire que potentiellement, je vais pas porter ta pièce. Et après, ils t'engueulent parce que tu portes pas leur pièce et tu rentres dans un tourbillon de trucs... Donc là, récemment, j'essaie de refuser de plus en plus de choses et tout, et de rester un peu plus raisonnable, parce que sinon, je nourris un truc à la base était contre, tu vois, en même temps, tu le prends, ouais. Parce que je suis juste humaine, et en même temps, tu vois, j'ai envie de kiffer aussi, je tâte le truc, je débarque, en réalité, ça fait quoi, 2 ans que je suis influenceuse en agence et tout. Donc ouais, honnêtement, j'essaie de baisser ma consommation un maximum en refusant qu'on m'envoie tout et n'importe quoi, surtout, tu vois.
D'accord.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.